Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Osons la philosophie et aujourd'hui, Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour Sylviane et bonjour à toutes et à tous.
Françoise nous a choisi un texte que vous allez appeler redoutable. Alors dites-nous Françoise, pourquoi le Léviathan de Thomas Hobbes est si redoutable et pourquoi vous l'avez choisi?
Alors j'ai choisi Hobbes parce que Hobbes nous propose la première grande théorie de l'État, c'est-à-dire de la souveraineté étatique. Et une souveraineté étatique, une toute puissance de l'État que nous, les sujets, nous lui avons conférée.
Mmh. Voilà. Librement.
Par un acte libre et par un acte où à la fois la passion et la raison, la passion de survivre a la possibilité toujours ouverte de la guerre entre individus, et l'espoir de se créer une vie meilleure, ces deux passions, donc, ne peuvent être soutenues qu'à la condition, précisément, d'un État, et un État dont nous allons voir, d'une certaine manière, la figure terrible. Le titre. Le titre, évidemment, évoque, justement, le caractère redoutable de cette puissance de l'État qui... tout de même, procède de notre concours. Sinon, cette redoutable puissance souveraine hein, de l'État, disais-je, elle procède de notre concours et pire que ça, ou mieux que ça. Elle suppose notre adhésion totale. Un mot peut-être très essentiel sur le titre. Alors, le titre, le Léviathan. Vous qui pratiquez la Bible avec virtuosité,
oula.
vous savez certainement que la figure du Léviathan, la figure
c'est un monstre.
Mythologique hein, de cet être monstrueux et absolument redoutable, est interpellée dans
le livre de Job,
à la fin du livre de Job, versets 40-41, etc. Je vous recommande la lecture du Léviathan avec une remarque, c'est que dans la Bible de Segond, le mot de Léviathan ne figure pas, mais il est donc traduit de l'hébreu, Léviathan en hébreu, par tout simplement crocodile.
Ça fait très nîmois tout ça.
Oui, bon. Alors, le Léviathan est l'emblème, en quelque sorte, de cet état extraordinairement puissant, hein, encore une fois, qui procède de notre volonté, de nos passions. Une remarque tout de même, c'est que l'État ne relève pas d'une lente évolution en vertu de la sociabilité naturelle de l'homme. L'État est fondé par un acte. Et l'État est fondé par un acte qui est un acte extraordinairement ferme, un acte de création, comme si... Et c'est l'autre figure, comme si l'État était, comme si l'État était une sorte de prodigieux automate dont les rouages et même l'esprit hein, seraient travaillés, conçus mécaniquement, en quelque sorte, par justement l'ensemble des sujets, l'ensemble des hommes qui seront justement les sujets de cet État. Et à ce propos, je vais vous lire les premières lignes. L'introduction au Léviathan qui explique précisément cela. C'est l'art, en effet, qui crée le grand Léviathan, appelé République ou État. En anglais, c'est Commonwealth. Commonwealth, je commenterai peut-être ce mot. L'État, qui n'est autre chose qu'un homme artificiel, quoique de stature et de force plus grande que celle de l'homme naturel, pour la défense et la protection duquel il a été conçu. Donc nous avons deux termes La création, donc, à la manière de la création divine, c'est le modèle, d'un artefact, hein,
quelque chose de construit.
Quelque chose de construit, qui procède d'un art, hein, d'une technique. Nous sommes à l'âge de la mécanique. N'oublions pas, nous sommes à l'âge de la mécanique, nous sommes à l'âge des automates.
Hein? Donc, oui, Hobbes a vécu de 1588 à 1679.
Parfait,
donc ça situe
par exemple,
bien.
C'est vraiment l'ère philosophique où le modèle de compréhension du monde mécanique, voire Descartes, alors entre parenthèses, Hobbes et Descartes se détestaient cordialement. Bon, on ferme la parenthèse.
Alors cette marionnette, moi, ça me fait penser au frontispice qui est partie intégrante, en fait, de l'ouvrage Le Léviathan.
Oui, alors écoutez la fin de la phrase, ça anticipe sur ce que vous dites. Ce n'est autre chose, ce Léviathan, qu'un homme artificiel, quoique de stature et de force plus grande que celle de l'homme naturel, alors pour la défense et la protection duquel il a été conçu. Remarque, avant de revenir à ce que vous dites et qui est très, très important, le principe de l'autorité politique, quelle que soit la force de sa puissance, ce principe, c'est bien de garantir la défense et la protection, entre parenthèses, des sujets. Alors, nous savons bien aujourd'hui à quel point nous attendons de nos États protection.
Oui, l'homme vit dans la crainte, vit dans la peur.
Nous y viendrons, oui. Bien, alors, je crois que vous voulez, Sylviane, nous parler, bien sûr,
du frontispice.
Immédiatement, oui. Du frontispice.
Alors, nous l'avons mis dans le visuel sur le site, mais chacun peut le regarder dans n'importe quel site internet. Il est très interpellant, mais on le développera plus dans la seconde partie.
Oui, oui. Alors, le livre du Léviathan, c'est un objet, un volume, hein, édité, c'est un de ces grands volumes imprimés. Bon, l'imprimerie des textes philosophiques est tout de même relativement récente, et il est précédé d'une gravure qu'on attribue à Boss, Abraham Boss, qu'on attribue, hein, c'est discutable.
Enfin, sous la commande de Hobbes.
Sous la commande de Hobbes. Autrement dit, le frontispice fait partie intégrante du volume. Il n'est pas, ce n'est pas un excursus, c'est vraiment le volume lui-même. Et il figure justement cette puissance monstrueuse. Alors, non plus du Léviathan, bien qu'il y ait une citation du Léviathan, mais cette puissance monstrueuse du Commonwealth.
Donc,
c'est un emblème, c'est une allégorie. Nous allons le voir, comme vous le dites.
Plus dans la seconde partie,
absolument,
dans la deuxième émission, puisque comme à chaque fois, il y a deux émissions, et comme à chaque fois, de très nombreuses lectures, peut-être plus que d'habitude, là.
Oui, alors ces lectures sont très serrées. Hein. Le texte du Léviathan, c'est la réflexion d'un penseur politique d'une extraordinaire fermeté, qui a un souci d'articuler les concepts, même de créer des concepts, sur lesquels nous vivons encore. C'est-à-dire que les problématiques du Léviathan sont encore les nôtres. Alors, on peut toujours se demander quel sens cela a-t-il à lire un texte qui défend la monarchie absolue, peut-être, ou en tout cas un État extraordinairement autoritaire pour nous, qui sommes des citoyens des démocraties. Entre parenthèses, le mot citoyen, dans le Léviathan, chez Hobbes,
ça n'existe pas.
Non, il y a le mot sujet.
Sujet.
Pas le mot citoyen. Alors, voyons.
Oui.
Commençons.
Donc, un plan en trois parties, enfin trois points importants. Moi, je reviendrai sur le fait que l'homme vit dans la crainte et ce pouvoir qui pose beaucoup de problèmes que vous aborderez dans les deux émissions. C'est-à-dire, qu'en est-il de la liberté personnelle? Quelle est la différence avec les régimes autoritaires? Et puis, contextualiser, c'est-à-dire, on est à l'époque où Charles Ier a été décapité en Angleterre.
Alors,
et pas négligeable.
Je vois bien le point de vue de l'historienne, parce que toute la question est là. Est-ce que c'est la philosophie qui se saisit de l'histoire? Ou est-ce que c'est le contraire?
Ou c'est un peu l'idée.
L'histoire se prolonge dans la philosophie. Alors, bien entendu, Hobbes est le contemporain de ce qu'on appelle la rébellion anglaise, qui va des difficultés entre le Parlement et le roi à l'assassinat.
La décapitation.
La décapitation, du roi jusqu'à au-delà de la période de Cromwell. Et pendant cette période extrêmement difficile de la guerre civile, et la guerre civile est bien des grands motifs sous-jacents. Hobbes est en France.
Et en exil, en fait.
Il est en exil, oui. Enfin, il se sauve, quoi.
Il se sauve.
Il échappe au... Comment dire ? Il échappe à tout ce qu'on pourrait lui reprocher, justement, parce que sa vision est tout de même extraordinairement autoritaire et ne convient pas tout à fait à la politique des parlements. Alors, je m'arrête là, parce que je ne suis pas historienne.
Oui, mais Charles, on savoir que Charles II reviendra sur le trône.
Charles II reviendra sur le trône. Et il se trouve que Hobbes a été son précepteur. Mmh. Et qu'en France, dans l'exil de France, ils se sont beaucoup fréquentés. Mmh. Et du reste, il y a une version, ou un tome, si j'ose dire, ou un volume du Léviathan que Hobbes offre à Charles, au futur Charles II. Commençons, revenons à la philosophie. Je ne peux pas aller plus loin dans mes compétences historiques. Elles sont tout à fait mesurées.
Savoir que le Léviathan a été rédigé en 1652.
Oui, c'est ça. Mmh. En France,
à Paris.
Le texte est rédigé en anglais. Hobbes en a fait plus tard une traduction en latin très expurgée. Donc le texte authentique, c'est le texte anglais. Voilà.
Alors, commençons.
Premier point. Eh bien, pour penser l'urgence, la nécessité absolue de création d'un État, c'est-à-dire d'une puissance souveraine qui ait suffisamment de teneur pour s'imposer à tous ses sujets, préalablement, il faut, c'est ce que Hobbes nous propose, réfléchir, exposer, et vous allez le voir de manière très théorique, ce que présente la condition humaine naturelle. Alors, je sais qu'on parle d'état de nature, mais le terme d'état de nature
n'est pas
dans le texte de Hobbes. Hobbes parle de manière beaucoup plus, je dirais, subtile d'une condition naturelle de l'homme. Nous allons voir quelle elle est.
Oui, vous aviez employé, ça m'avait un peu gênée au début, de conditions primordiales ou de conditions présociales aussi, on peut
oui,
dire.
Oui, alors nous reviendrons, si vous voulez, sur cette question du statut de cette... cette théorisation de ce que peut être l'homme dans sa condition naturelle, c'est-à-dire dans une condition telle que les structures sociales, les entités politiques ne sont pas encore présentes. Il se peut aussi qu'il s'agisse de définir les traits fondamentaux de la nature humaine, de la nature humaine à l'état de nature, d'en définir les traits fondamentaux qui sont peut-être sous-jacents à toute espèce de formation politique, au point que la guerre civile, par exemple, la guerre civile n'est que la résurgence au cœur de la société politique, justement, de l'homme naturel qui revendique son droit naturel, l'individu contre tous les autres.
Chacun contre chacun.
Nous allons le voir, cela. Hein. Donc, je vais surtout maintenant vous lire. Comme le dit Hobbes, et il le dit explicitement, il s'agit avant toute chose de déchiffrer le cœur humain, c'est-à-dire de montrer, d'exhiber quelles sont les passions fondamentales de tout homme, puisque chacun, lisant en soi-même, les découvre en soi-même. Quelles sont les passions fondamentales de tout homme ? Je le dis par avance, il s'agit du désir. Alors, le désir, c'est en quelque sorte l'élan vital qui nous porte à faire valoir notre droit naturel à l'existence, à l'amplification de notre existence. Et deux passions se rejoignent, ou s'opposent plutôt, qui sont très essentielles pour penser le politique, ce sont la peur et l'espoir. De la peur et même de la terreur, nous allons parler. Alors d'abord, qu'en est-il de la condition naturelle de l'homme ? Eh bien, cela relève d'un climat de guerre, cela relève d'une atmosphère belliqueuse. Et je vais vous lire ces passages très célèbres. Il est manifeste que pendant ce temps où les humains vivent sans qu'une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d'effroi, leur condition est ce qu'on appelle la guerre. Point virgule. Alors, je m'arrête sur un tout petit point. Vous voyez bien comment, tout de suite, l'état belliqueux, l'état de guerre ou la condition de guerre est présenté par contraste avec le règne de la paix sous l'empire, je dis bien l'empire, d'une puissance commune qui doit leur imposer au sujet un respect mêlé d'effroi. Respect mêlé d'effroi, c'est le traducteur qui a traduit le mot anglais awe, A-W-E, mot presque intraduisible, là il a été traduit par deux mots, mot presque intraduisible, qui évoque une espèce de terreur sacrée, une espèce de terreur sacrée à la limite devant l'inconnu. A-W-E, nous y reviendrons. Bon, la suite. Peut-être en relisant un petit peu avant, il est manifeste que pendant ce temps où les humains vivent sans qu'une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d'effroi, leur condition est ce que l'on appelle la guerre. Et celle-ci est telle qu'elle est une guerre de chacun contre chacun. Donc, ce n'est pas la guerre de tous. Hein? Il y a une traduction latine qui voudrait que ce soit la guerre de tous contre tous. Non, le texte anglais dit la guerre de chacun contre chacun. Individu dressé contre individu.
Pour survivre, en fait.
Allons-en le voir. Leur condition est ce qu'on appelle la guerre. Celle-ci est telle qu'elle est une guerre de chacun contre chacun. Maintenant, un parallélisme étrange. C'est moi qui parle, hein. Je lis. En effet, la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de combattre, mais dans cet espace de temps. A tract of time, dans cet espace de temps pendant lequel la volonté d'en découdre par un combat est suffisamment connue. D'une certaine manière, la condition de guerre, elle est latente, constante, latente. La suite. Et donc, la notion de temps doit être prise en compte dans la nature de la guerre, comme c'est le cas dans la nature du temps qu'il fait. Donc il y aurait un temps, comment dire, un temps continu, une espèce de base continue de la temporalité de l'état de guerre, et cela a à voir avec le temps qu'il fait. Je lis.
Oui, j'allais dire, c'est time ou c'est weather?
Alors,
c'est...
donc la notion de temps, time, doit être prise en compte dans la nature de la guerre, comme c'est le cas dans la nature du temps qu'il fait, weather. Time et weather, je précise. Car, de même que la nature du mauvais temps ne consiste pas en une seule ou deux averses, mais en une tendance au mauvais temps, qui s'étale sur plusieurs jours, de même, en ce qui concerne la nature de la guerre, celle-ci ne consiste pas en une bataille effective, mais en la disposition reconnue au combat pendant tout le temps qu'il n'y a pas l'assurance du contraire. Et tout autre temps est la paix. Alors, quelques remarques. Cette correspondance entre le temps de guerre et le temps climatique, vous allez me dire...
C'est un peu bizarre.
Entre weather et time,
et time.
Il n'y avait pas grand-chose de commun. Sinon que, Hobbes, j'en suis absolument persuadée, a pensé en français.
Oui, il est en France, en exil.
Il est en France.
Il a beau écrire en anglais.
Et là, il a pensé en français.
Est-ce qu'on dit le climat de guerre?
Le climat de guerre, voilà. Voilà. Donc, l'état naturel de l'homme, c'est un climat de guerre. Hein. Et ce climat de guerre, encore une fois, il tient, ou il a pour résonance d'affect, la peur, la crainte de chacun contre chacun. Alors, nous verrons pourquoi à la fin, hein, je vous dirai, je ménage mon temps.
Dans ce climat de guerre, dans cette crainte, dans cette peur, on a choisi, ou vous avez choisi, un rondeau de Purcell, qui est un presque contemporain de Hobbes, et pour donner un peu une sorte de respiration. Donc nous écoutons le rondeau de Purcell.
Disons que c'est notre collaboratrice qui a choisi
Mia,
ce morceau musical.
Notre jeune service civique.
C'est vraiment très réussi, me semble-t-il.
Thank you.
sur Radio Alliance Plus. Françoise Gernot a repris son souffle pendant Purcell pour continuer à nous expliquer ce redoutable Léviathan, ce climat de guerre, et vous poursuivez donc votre lecture et analyse.
Oui, alors il s'agit toujours d'une contraposition entre l'état de guerre, hein, ou plutôt la condition de guerre qui correspond à la condition humaine primitive, primordiale ou sous-jacente, et la paix. Tout autre temps est la paix. Vous voyez comment la paix s'arrache sur la guerre. Hein, elle vient en second. Je lis la suite, hein, qui fait bifurquer le texte quand même. Donc, toutes les conséquences du temps de guerre où chacun est l'ennemi de chacun, j'insiste en anglais, hein, c'est « every man against every man », sont les mêmes que celles du temps où les humains vivent sans aucune autre sécurité que celle procurée par leur propre force ou leur propre ingéniosité. C'est-à-dire que la survie de chacun dans, entre guillemets, l'état de nature, tient à sa possibilité de mettre en jeu sa force et son ingéniosité, très bien traduit, le mot anglais « wit ».
C'est la loi du plus fort, en fait. Pas tout à fait.
Pas tout à fait, parce que le grand principe, qui, sans lequel rien ne fonctionne, le grand principe de Hobbes, c'est que, naturellement, les hommes sont à peu près égaux. Mmh. Ils sont à peu près égaux. Et c'est intéressant comme idée, que les hommes ne sont pas inégaux. S'il y a du conflit, s'il y a de la rivalité, s'il y a de l'animosité, c'est parce que les hommes sont presque égaux.
Oui, s'il y en avait un plus fort, il prendrait le pouvoir.
Bien sûr, c'est pas ça. Et le pouvoir n'est pas du tout adressé ou conféré au plus fort.
Oui,
pas
du tout.
Dans une telle situation, il n'y a de place pour aucune entreprise parce que le bénéfice est incertain. Et par conséquent, il n'y a pas d'agriculture, pas de navigation. On utilise les marchandises importées par mer. Il n'y a ni vaste bâtiment, ni engin servant à les déplacer et déménager, ce qui nécessite beaucoup de force. Nous sommes
dans l'ère industrielle, mécanique.
Non, pas du tout. Nous sommes, pardonnez-moi, nous sommes dans l'empire des mers qu'est l'Angleterre à cette époque.
Ah oui.
Et ce qui est intéressant, j'y reviendrai, c'est que Hobbes naît. Sa mère lui donne naissance au moment où l'invincible armada agresse l'Angleterre. Mais l'Angleterre, c'est déjà l'empire des mers, avec tout ce que ça suppose. Et là, vous avez raison, d'un essor économique qui donnera le capitalisme anglais.
Vous avez bien sûr,
in fine, raison.
J'ai anticipé.
Voilà. Alors, je reprends. Il n'y a aucune connaissance de la surface terrestre, aucune mesure du temps, ni art, ni lettres, pas de société. Et ce qui est pire que tout, il règne une peur permanente, un danger de mort violente. Alors, entre parenthèses, ce qui va susciter le mouvement qui précède, évidemment, un contrat social des hommes en vue de créer un État, c'est bien la crainte de la mort violente. On y reviendra. Alors, ce passage, cette citation très connue, « La vie humaine est solitaire, misérable, dangereuse, animal et bref. »
Ouh, quand vous dites redoutable, on comprend.
Alors, écoutez, on est ébloui quand on lit Hobbes par cette clarté, ce caractère absolument décisif de sa rhétorique.
Mais vous avez employé le mot contrat social, c'est complètement opposé au contrat de Jean-Jacques Rousseau.
On est très très loin de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a beaucoup reproché à Hobbes d'avoir en quelque sorte projeté sur ce que Rousseau appelle l'état de nature, un état de société, c'est-à-dire de rivalité, de compétition au nom de l'amour propre des hommes entre eux. Je pense que autant j'aime Rousseau, autant je crois que sa critique de Hobbes ne
tient pas la route.
Enfin, je dirais, c'est autre chose. C'est autre chose. Cette polémique, à mon sens, c'est une polémique viciée. Ça n'enlève rien, pour moi, à l'admiration absolue que je peux avoir pour le grand texte de Jean-Jacques Rousseau.
Alors, comment va-t-on passer de cette condition naturelle humaine à la souveraineté? Je vous propose qu'on le voit dans la deuxième émission. Vous concluez comment cette première émission ?
Je voudrais tout de même conclure par encore une autre lecture du même passage, pas loin. « Les passions qui poussent les humains à la paix sont la peur de la mort. Le désir des choses nécessaires à une existence confortable et l'espoir de les obtenir par leur activité. » C'est-à-dire, ce qu'il s'agit tout de même de penser, c'est un surgissement de l'État à partir des passions humaines. Et ces passions humaines, encore une fois, sont la peur de la mort. Le désir des choses nécessaires, c'est-à-dire le confort, le désir de confort, et l'espoir. L'espoir de voir, je dirais, son œuvre s'accomplir dans les beautés et les bienfaisances de la vie. Je continue. La raison, couplage entre ces passions apparemment négatives et la raison. La raison suggère les articles de paix adéquats sur lesquels ils se mettront d'accord. Ces articles sont ceux qu'on appelle encore les lois de nature. J'en parlerai plus spécialement dans les deux chapitres suivants.
Eh bien, à bientôt. Belle transition pour la seconde émission. Très bientôt. Merci Françoise.
Merci à vous.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.